Le message que vous allez écouter vous est présenté par l'association chrétienne CIV, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, dont la vision est d'apporter par l'Esprit de Dieu l'Évangile qui a franchi de toute servitude. Nous espérons qu'il transformera votre vie. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante. CIV Talence, 244 avenue de Thouars, 33400 Talence. Téléphone 09 51 41 31 20 ou au 06 60 49 69 18. Email civ.talence@hotmail.fr. Merci et bon confort d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Sans lui. Mais mon esprit, mon âme, mon corps, mon être tout entier soupire après le Dieu vivant d'Israël. J'ai tant besoin de lui. Je le désire jour et nuit. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Merci, Seigneur. Nous vous accueillons à la présence de Dieu dans le cadre de cette conférence intitulée « Vaincre l'échec et accomplir sa destinée ». C'est une conférence qui se veut être vraiment des temps de transformation, d'enseignement, d'encouragement prophétique aussi. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il a commencé à nous enseigner depuis hier. Et durant les ateliers cet après-midi, nous croyons que vous n'êtes pas déçus d'être là pendant ces moments. Alléluia. Et si vous avez été vraiment bénis, levez votre main jusqu'à présent. Alléluia. Et si vous avez encore soif et fin de la parole de Dieu, vous pouvez acclamer très fort le Seigneur, parce que ce soir encore, vous allez être nourris. Nous parlons de la destinée, il est question de notre destinée. Et nous avons pour texte de base le psaume 139, le verset 16, qui dit, « Lorsque nous étions encore qu'une masse informe, quand Dieu nous a formés dans le sein de notre mère, il avait déjà inscrit dans le livre de notre destinée tous les jours qu'il avait prévus pour nous, c'est-à-dire au moins 120 ans, et toutes les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Et hier, nous avons vu effectivement que la destinée de chacun est attachée à ces deux éléments. Dieu a un livre dans le ciel à ton sujet. Et quand, par grâce, il plaît à Dieu, il nous révèle le contenu de ce livre au travers des révélations, au travers des prophéties, au travers des prophètes. Et nous avons compris que ce ne sont que des extraits. Nous ne pouvons connaître tout le contenu de ce livre, car la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. Donc, aucun prophète ne pourra avoir toute la préscience, toute l'omniscience de connaître autant que Dieu tout le contenu de ce livre. Alléluia. 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 Si on peut augmenter un peu mon micro, s'il vous plaît. Et donc, il était important de comprendre que Dieu veut notre bien. Et c'est pourquoi il a prévu une destinée pour chacun d'entre nous. Et dis à ton frère que tu as une destinée. Et tout être humain né et vivant sur la terre a une destinée, obligatoirement. Il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Et nous avons expliqué c'est quoi la destinée. Nous avons commencé déjà à développer, à décortiquer ce mot destinée. On a vu que dans destinée, il y a « des » comme « don ». Il est important donc pour accomplir ta destinée de commencer à identifier tes dons, à les connaître. Et hier, on a fait tout un inventaire, un répertoring de tous les dons possibles qui puissent exister. Et là-dessus, j'aimerais vraiment donner un point important que je n'ai pas souligné hier. C'est qu'au sujet des dons, quelque chose que vous pouvez ajouter de très important, c'est qu'il n'y a pas que 9 dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels. Dans les 9 qui ont été cités, ce sont les 9 dons spirituels qui ont été trouvés dans l'église de Corinthe. Mais dans Romains et dans bien d'autres livres de la Bible, vous allez trouver d'autres dons. Par exemple, le don de présider. Par exemple, le don de prêcher. Par exemple, le don d'enseigner, tout ça, ce sont des dons spirituels. Le don de prier, il y a des gens qui ont un don pour prier. Hein? Ils prient, ils peuvent facilement prier pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps sans se fatiguer. C'est un don. Alléluia. Il y a des gens qui ont le don de jeûner. Ils peuvent enchaîner 40 jours de jeûne de prière au moins 3 fois dans l'année. C'est un don. Alléluia. Tout le monde peut prier, tout le monde peut jeûner, mais ceux qui ont le don, c'est très particulier. Il y a le don, par exemple, de conduire la prière, de conduire la louange. C'est des dons. Et on pourra en citer plein. Il n'y a pas que 5 ministères aussi. C'est important de souligner cela. Il n'y a pas que 5 ministères. Il y a plusieurs ministères. Alléluia. La louange est un ministère. C'est pas cité parmi les 5 ministères. Et c'est important aussi de savoir que ceux qui ont dit que ce sont les 5 ministères, ce sont des théologiens. Mais nulle part dans la Bible, il n'est écrit qu'il y a 5 ministères. Vous l'avez vérifié dans tous les passages, il n'y a pas 5 ministères. Et ce qu'on appelle les 5 ministères aujourd'hui, c'est-à-dire apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, ne sont pas en réalité des ministères. Mais ce sont des dons. On l'a vu ça hier quand on lisait les versets au sujet des dons. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, pasteurs. Ce sont des dons. C'est aussi des positions parce qu'il a établi. Donc ce sont des rangs. Maintenant, il dit, ils ont été établis pourquoi? Ils ont été donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est qu'à partir du moment que le mot ministère apparaît. Donc, le ministère, c'est pour les saints, y compris les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Chacun a un ministère. Maintenant, ces apôtres, ces prophètes, ces pasteurs ont été établis à un rang spécial parce qu'ils sont reconnus comme étant des guides, ils ont fait leurs preuves, ils ont grandi en maturité et donc aujourd'hui ils sont capables d'enseigner les autres et de perfectionner les saints, de faire des disciples afin que ces saints-là étant perfectionnés puissent être capables de faire l'œuvre du ministère. Mais quel ministère? La Bible ne le précise pas. Il y a beaucoup de ministères. Ministère du chantre, ministère de ceci, de délivrance, ministère de la prière. Il y a beaucoup de ministères qui existent. Et vous devez savoir que pour connaître votre ministère, ne cherchez pas parmi les 5 cases. Quand j'expliquais ça à une sœur, elle me disait, mais je comprends pourquoi je me retrouve pas dans les 5 cases. Pour connaître votre ministère, le ministère veut du service. Donc il faut, pour connaître votre ministère, il faut identifier vos dons. Comme on a vu hier, ce sont vos dons qui dessinent votre ministère. Alléluia. Par exemple, quand je regarde l'évangéliste Victor, en fait, théologiquement parlant, on l'appellerait évangéliste, ministère d'évangéliste. Mais en réalité, c'est pas ministère d'évangéliste. Voyez-vous, quand vous voyez l'évangéliste Victor, il sait prêcher, il sait jouer à un instrument, il sait jouer à plusieurs instruments d'ailleurs. Il a des dons au niveau de la technologie, au niveau de l'informatique, il a des dons au niveau du bricolage, il a beaucoup de qualités. D'accord? Donc, comme on a vu hier, si tous ces dons-là, il les transforme en mine, il les transforme en talent, ces dons-là vont lui permettre d'accomplir des œuvres. Alléluia! Et donc, comme on a vu hier, chaque don nous permet d'accomplir une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Donc, autant il a des dons, autant il peut accomplir des œuvres. Donc, celui qui a plusieurs dons, il est appelé à accomplir plusieurs œuvres. Et c'est l'ensemble de ces œuvres-là qu'on appelle ministère. Simplement. Et ceux qui ont compris ça, ce sont les anglo-saxons. Voilà pourquoi vous n'allez jamais entendre parler de ministère évangéliste tel. Non, on dit « Benign Ministries ». Clifodola Ministries. Mabwadi Ministries. Oh, alléluia! Alléluia! Ils ont compris cela. Et donc, c'est quoi? Benign Ministries, ça va être quoi? Ça va être les programmes d'évangélisation qu'il fait, les croisades, les guérisons. Ça va être les programmes de télévision qu'il fait. Ça va être les œuvres humanitaires qu'il fait en faveur des pays pauvres, les enfants, les hôpitaux qu'il ouvre. Ça va être, toutes les œuvres qu'il fait en faveur des femmes, etc. tout ce qui est vraiment, même l'école qu'il a ouverte pour la formation des leaders, tout ça, ça fait partie des œuvres. Parce que ce sont les dons que Dieu l'a donné pour enseigner les leaders aussi. Donc, ça fait partie des œuvres qu'il a accomplies. L'ensemble de ces œuvres, c'est ça le ministère. Et quand tu accomplis toutes les œuvres que Dieu t'a destinées sur la terre, en fait, tu accomplis ta destinée. Alléluia. Quand tu accomplis tes dons, tu comprends les œuvres que Dieu veut faire avec toi. Et quand tu accomplis ces œuvres avec tes dons, tu accomplis ton ministère. En ce sens, en fait, ton ministère est attaché à ta destinée. Alléluia. Donc, Dieu te donne un ministère. Il te donne des dons et des ministères pour accomplir ta destinée. Que quelqu'un donne gloire à Dieu. Alléluia. Donc, autant il y a d'œuvres, autant il y a des ministères. On ne peut pas quantifier les ministères qu'il y a. Il y a même des ministères qui n'existaient pas dans l'église primitive qui naissent aujourd'hui. Ministère de relations d'aide, par exemple. Ministère de restauration, de réconciliation. Ministère d'encouragement prophétique. Alléluia. Ministère de motivation. Speaker motivation. I am. Alléluia. Et on peut en trouver. Autant il y a des talents, autant il y a des ministères. Donc ça c'est important. D comme don. On a dit E comme extension. Capacité à s'étendre, à élargir notre pensée. Avoir une perception très élargie par rapport à nos dons et pouvoir les fructifier, les transformer en talents. On a dit quoi encore? S comme sphère. Identifier ton domaine d'activité, ton domaine d'influence. Là où Dieu veut que tu puisses régner. C'est quoi exactement? Alléluia. Et on a vu qu'effectivement, au travers des dons que Dieu nous a donnés, on peut voir naître des métiers, des corps de métiers. Alléluia. On a cité plein d'exemples là-dessus. On a dit quoi encore? T comme type de personnalité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ou encore comme tribu. Alléluia. Alors, sur la base de l'étude des 12 tribus, on va déterminer notre type de personnalité. Et quoi d'autre encore qu'on a vu? I comme identité, parce qu'il y a une différence entre personnalité et identité. Quoi d'autre encore? N comme nom. Dieu veut rendre ton nom grand. Alléluia. Et on verra comment ça se passe avec Dieu. Quoi d'autre encore? Et comme épreuve. Ah! C'est inscrit dans ton livre. Le livre de ta destinée. L'épreuve fait partie de ta construction pour accomplir ta destinée. Ça, c'est très important. Quoi d'autre encore? Et enfin, E comme excellence. Donc aujourd'hui, nous allons voir maintenant T, type de personnalité. Et je vous ai dit hier que nous allons faire une étude de notre personnalité. C'est très important de connaître sa personnalité. Bien-aimé, découvrir sa personnalité nous permet de mieux utiliser nos talents et nos dons. Voyez-vous, aujourd'hui, la notion de personnalité est très importante dans la société. Dans n'importe quelle entreprise, quand vous cherchez un emploi, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait passer des tests de personnalité. Parce que, en fait, tous les postes recherchent un profil de personnalité qui correspond à ce type de travail. Donc, si tu ne rentres pas dans les critères, tu ne peux pas prétendre avoir ce poste. Donc, c'est important de connaître ta personnalité et l'adapter en fonction des besoins d'une entreprise. Moi, j'ai plusieurs CV. En fonction de chaque poste, je vois les traits de caractère que j'ai et je fais un CV en fonction. Si on recherche, par exemple, un ingénieur pédagogique, je peux aujourd'hui prétendre être un ingénieur pédagogique. Pas parce que j'ai fait un diplôme là-dedans, mais parce que j'ai acquis des connaissances, des notions, j'ai des compétences, j'ai dans mon cadre des expériences qui me permettent effectivement d'avoir un profil, une personnalité qui cadre avec le profil d'ingénieur pédagogique. Et je peux faire valoir mes dons, le fait que je prêche, le fait que je reçois les gens à l'entretien. C'est des dons pédagogiques. Alléluia! Et c'est une expérience qui coûte cher, que je peux vendre aux entreprises. Que quelqu'un dise amen. Non, la personnalité est très importante. Même pour te marier, la sœur sera intéressée du fait de ton profil. Qui se souvient de cet enseignement? Alléluia! Qu'est-ce qui va intéresser la sœur chez toi? C'est ton profil. C'est ton type de personnalité. Qu'est-ce qui va intéresser le frère? C'est ton type de personnalité. Donc la personnalité est très importante. Et comme je disais hier encore, j'ai essayé de chercher dans beaucoup de ressources pour essayer d'argumenter ce point sur le type de personnalité. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui ont écrit dessus, notamment Hippocrate qui a écrit les quatre tempéraments que vous connaissez, sanguin, colérique, phlegmatique, mélancolique. J'ai trouvé ça très bien parce qu'il est parti de la du principe des gènes, donc sur la base des gènes, il a démontré effectivement nous pouvons hériter des tempéraments. C'est génétique en fait. Donc certains sont colériques, certains sont flegmatiques, d'autres sont plutôt sanguins. Il y en a qui font la distinction entre le sanguin positif, le sanguin négatif, enfin bref, etc. Mais je voulais quelque chose de biblique, quelque chose qui soit vraiment tiré de la Bible. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai découvert cette sœur merveilleuse qui s'appelle Gwynne Shaw. Je vous recommande ces deux bouquins. Qui a écrit sur les 12 tribus d'Israël, qui a fait l'objet donc effectivement d'une thèse théologique. Et elle a soutenu là-dessus, je trouvais ça très intéressant. Donc il y a le tome 1, le tome 2, vous pourrez prendre ça. Vous voyez la sœur Ludivine parce que c'est elle qui m'a prêté ça. C'est une bibliothèque cette sœur. Alléluia. Et j'ai trouvé ce que je cherchais, quelque chose de biblique. Alléluia. Donc c'est important de comprendre quelle est ta personnalité. Et on va étudier ensemble ces 12 tribus d'Israël. Okay? Et donc pour renforcer vos connaissances, je vous recommande vraiment ces deux bouquins-là. Okay? Lisez ça, lisez. Vous allez davantage découvrir qui vous êtes au niveau de votre personnalité. Il y a 12 tribus. La première tribu, c'est la tribu de Ruben. Ruben, alors tu vas au dernier diapo, les 12 tribus, d'accord? Et chaque fois, effectivement, ok, remonte s'il te plaît, remonte. D'accord, ok. Descends, encore, descends. Remonte. Ok, c'est bon. Ruben, très bien. Ok, Ruben signifie nouveau commencement. Ok, Léa, qui est sa mère, va créer l'Éternel parce que au départ, elle n'arrivait pas à faire des enfants. Et puis, elle n'était pas aimée de Jacob. Jacob aimait Rachel. Et donc, Léa va crier à l'Éternel. Et Ruben naît à une époque de la récolte, une époque favorable. Pendant la saison des mandragores. Je vous expliquerai ce que c'est, mandragore, tout à l'heure. Donc, les Rubénites sont des personnalités, en fait, de type... premier né, c'est-à-dire, ce sont des leaders nés. Le symbole de cette tribu, c'est quoi? C'est le soleil et la fleur. Cela est synonyme de nouveau commencement. Les Rubénites, donc, sont de type de personnalité tendre, remplie d'amour et d'affection. C'est des gens qui ne supportent pas de voir les gens souffrir autour d'eux. Ils sont donc aimants. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la saison des mandragores, Ruben ira chercher des mandragores pour sa mère Léa. Il apporte des mandragores. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Léa n'était pas aimée par son père Jacob. Et le cœur de Jacob se tournait constamment vers Rachel. Donc pour essayer d'aider sa mère à conquérir le cœur de son père, il va aller chercher des mandragores. Pourquoi? Parce que les mandragores sont un type d'aphrodisiaque. Et là, elle a dit, il s'est dit certainement, en utilisant cela, papa va accrocher. Alléluia. C'est un stratège, Ruben. Dis à ton frère, c'est un stratège. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui aime aider, qui aime réconcilier. Alors, les Rubénites aussi sont des premiers-nés. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est l'aîné de tous les frères des enfants de Jacob. Ils ont un caractère très protecteur. C'est même Ruben d'ailleurs qui va empêcher les frères de Joseph de tuer Joseph. C'est vraiment de véritables grands frères. Ils ont un caractère d'aîné, de leader. Mais il y a un souci avec ce caractère. Parce que ils sont tellement aimants, tellement compassionnant, compatissant. Alléluia. On va ajouter ça au dictionnaire. Faut ajouter ça. Ça, c'est made in Maboadi. Alléluia. Alléluia. Faut ajouter ça. Ils sont tellement compatissants que, en fait, parfois, ils confondent la compassion à l'affection. Et cela était un piège pour Ruben. Pourquoi? Parce que plus tard, après la mort de Rachel, eh bien, Ruben va plus se rapprocher de la servante de Rachel, qui s'appelait Bila. Bila était une esclave qui a beaucoup souffert auprès de Rachel, parce que Rachel était une femme très autoritaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À la mort de Rachel, Ruben va vouloir aider Bila autant pour moi. Donc, il va vouloir faire la relation d'aide, consoler le cœur qui a été beaucoup meurtri, blessé par la dureté du caractère de sa belle-mère Rachel. Et donc, de plus en plus, vous savez, à cette époque, Ruben avait quand même 30 ans. Donc, c'était un garçon déjà, c'était un homme. Et Bila était une jeune fille également. Elle était esclave. Elle était au service de Rachel. Et ce rapprochement, cette compassion au départ, va se transformer en affection. Et quelle affection? Qui va conduire Ruben à un péché très grave. Il va coucher avec la concubine de son père, Bila. Bila veut dire souffrance. Et c'est vrai qu'il pouvait identifier en elle la souffrance. Donc son élan de cœur, de compatissant, l'entraîne à vouloir aider une personne qui souffre. Seulement, cette compassion va se transformer en affection et il tombe dans le péché, malheureusement. Et son père ne va pas le lui pardonner. Parce qu'en lisant Genèse chapitre 49, vous allez voir quand il libère les paroles, quand Jacob est sur le point de mourir, les dernières paroles qu'il laisse, c'est que tu as sué le lit de ton père. Ce n'est pas une bénédiction. On va lire ça tout à l'heure. C'était grave sur sa destinée. Il a projeté une malédiction sur lui. Et dans l'église, il y a beaucoup de rubénites. Dans le ministère, il y a beaucoup de rubénites. Des gens qui ont un élan de cœur toujours à vouloir aider. Des gens compatissants, aimants. Mais vous devez faire très attention. Parce que votre compassion peut très facilement se transformer en affection dangereuse. Les entretiens avec les sœurs en Christ, tout seul, jusqu'à 24 heures. Oh, vraiment, elle a pris une mauvaise nouvelle. Elle a perdu quelqu'un, j'étais là pour la consoler. La Bible déclare que vraiment, vous devez vous soutenir les uns les autres, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Sauf que là, c'est la plus faible qui arrive à vaincre le plus fort. Et beaucoup de frères en Christ sont tombés dans le péché comme ça. Donc, cet amour de Ruben peut être quelque part un piège et une faiblesse. Faites attention, si vous êtes rubéniste, si vous découvrez ce soir que vous êtes rubéniste, vous devez faire très attention. Si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez travailler ce trait de caractère en vous. Parce que votre ministère peut prendre un coup. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont vraiment brillé par leur ministère, mais qui malheureusement aujourd'hui, parce qu'ils étaient des rubénistes, ils n'ont pas pris conscience de cela, ils sont tombés dans le péché. Il est minuit, ta femme n'est pas là, on t'appelle, oh les démons m'attaquent. Tu prends tout de suite ton manteau comme c'est l'hiver, tu cours, tu démarres ta voiture, tu t'en vas. Korababa, tu arrives là-bas comme ça, c'est compliqué maintenant, tu n'arrives plus à revenir. Ruben s'est fait ruminer. Dans l'arbre généalogique de Ruben, on trouve comme ancêtre Enoch, qui signifie consécration. Donc, c'est des personnes effectivement qui ont un cœur qui aiment le Seigneur et qui ont un élan de consécration assez profonde. Ensuite, il y a Palou, qui signifie célèbre. C'est des personnes qui sont destinées à la célébrité. Alléluia. Donc, ils sont célèbres, ils sont leaders. C'est de là, effectivement, de ce type de personnalité que sont nés des métiers tels que des managers, des leaders d'entreprise, des leaders de groupe, des hommes politiques. Ils sont célèbres, des stars. Alléluia. Dis à ton frère que tu es peut-être un rubéniste ce soir. Mais les rubénistes sont souvent soumis à des épreuves aussi difficiles. Et chaque fois que tu, en tant que rubéniste, tu te rends compte que tu es éprouvé, tu dois toujours te souvenir d'une chose, c'est que tu es né à une époque de nouveau commencement. Donc les rubénites ont comme destiné un cycle de nouveau commencement. Chaque fois que tu es confronté à une difficulté, à une épreuve, tu vas te souvenir qu'en fait ton emblème c'est le soleil et c'est la fleur. Et donc sur toi réside une destinée de nouveau commencement. Donc dans ta vie, ou du moins dans ta destinée, s'inscrit un cycle de nouveau commencement. Tu ne vas jamais t'arrêter devant l'épreuve. Chaque fois qu'il y a une difficulté, Dieu envoie une onction de nouveau commencement. Alléluia. Et il dit, attention, j'envoie sur toi quelque chose de nouveau. Elle est sur le point d'arriver, tu la connaîtras. Et il t'introduit dans quelque chose de nouveau. Et tu vas toujours expérimenter des choses nouvelles avec Dieu. De nouveaux commencements, de nouvelles expériences, de nouvelles dimensions d'intimité, de nouvelles dimensions d'onction et de puissance, de révélation avec le Seigneur. Parce que tu es rubéniste. Alléluia. Et quand tu comprends ta personnalité, tu travailles avec cela. Et tu ne te laisses pas ébranler par les épreuves. Tu as le caractère de leader, tu es un premier-né. Tu es né pour leader, tu es né pour gouverner. Tu es né pour régner. Tu es une célébrité. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Le deuxième fils de Léa, c'est Siméon. Donc, ce type de personnalité a donné naissance à des Siméonites. Ce qui signifie celui qui entend et qui obéit. Parce qu'on peut entendre et ne pas obéir. Mais les Siméonites, c'est les personnes qui entendent et qui obéissent. Siméon était un fils de Léa, donc, comme je disais tout à l'heure, okay. Et c'est la race des personnes très sensibles. Quand l'autorité a parlé, ils écoutent, ils entendent et ils obéissent. C'est des personnes que le Saint-Esprit utilise facilement parce que ce sont des personnes très flexibles. Ils entendent Dieu. Ils ont une oreille très aiguisée à la voix de Dieu. Et ils obéissent au Saint-Esprit. Alléluia. Donc si vous remarquez que dans votre vie, vous n'obéissez au Saint-Esprit qu'au bout de deux ou trois injonctions, vous n'êtes certainement pas un siméoniste. Un siméonite. Alléluia. Si chaque fois Dieu est obligé d'utiliser les circonstances, les épreuves pour te faire plier, tu n'es pas un siméonite. Tu es quelqu'un d'autre qu'on verra après. Au départ, les Siméonites, quand même, c'était pas des personnes très flexibles, il faut l'avouer. Dans leur histoire, c'était des personnes très rebelles. Et ils ont dû apprendre l'obéissance au travers des choses dont ils ont souffert. Alléluia. Et donc, depuis ce jour, ils sont devenus très flexibles à la voix de Dieu. Et beaucoup sont comme ça à l'église, dans le peuple de Dieu, beaucoup sont comme ça. Il faut qu'ils passent d'abord par les épreuves, les expériences. Il faut qu'ils aient d'abord enduré les conséquences de leurs actes pour qu'ils comprennent que là, il faut arrêter. Dieu leur a parlé une fois, deux fois, ils n'ont pas compris. Il a parlé au travers des frères, il a parlé au travers des pasteurs, au travers des messages. Ils ne comprennent pas. Ils continuent dans le péché, ils continuent dans ces erreurs-là, ils continuent dans leur entêtement, dans leur projet. Et c'est quand ils se cassent la tête maintenant qu'ils disent « Ah !» Et parfois, ils se cassent la tête une fois, ils continuent quand même. En fait, il y a un esprit de folie qui est attaché au cœur des Siméonites. Oui, parce que la folie, par définition, c'est quoi? La folie, c'est l'art de faire toujours les mêmes erreurs en croyant obtenir un résultat différent. C'est-à-dire que tu te cognes la tête, tu sais que là, c'est pas bon. Tu recules, mais tu dis non, je vais encore essayer. Tu reviens encore, tu cognes la tête contre le mur, tu reviens encore, tu dis non, c'est pas normal, ce mur-là ne doit pas me faire mal. Mais qui l'a placé là d'abord? Et tu vas perdre du temps, des années passent, tu es conscient que ça c'est pas bon, tu continues de le faire. C'est de la folie. Le symbole de la tribu de Siméon, c'est la cruche et le poignard. Ce sont des armes de guerre. Les Siméonites sont donc des guerriers. Dites des guerriers. Alléluia. Ils ont une mentalité de guerrier. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu tête dure. Comme les Bretons. Qui est Breton ici? Alléluia. Ouais, c'est la réputation des Bretons. C'est pas caché ça, c'est connu. Mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Siméon? Dans Genèse 22, verset 17, la Bible dit « Ta descendance possédera les portes de ses ennemis. » Du fait de son caractère guerrier, la descendance de Siméon, donc les Siméonites qui sont dans la salle, votre destinée consiste à posséder les portes de vos ennemis. Alléluia! Quand vous reconnaissez en vous un caractère de guerrier, vous devez savoir que Dieu a prévu pour vous un héritage. Ce sont les portes de vos ennemis. Donc, chaque fois que vous avez vos ennemis en face de vous, rejouissez-vous parce que c'est un autre butin qui vous arrive, qui vient vers vous. Chaque fois que le peuple d'Israël allait en guerre, Dieu leur demandait de piller le camp de l'ennemi. Et ils prenaient le butin. Bon, parfois, il interdisait, il vouait certaines choses à l'interdit, mais parfois, il disait quand même, prenez aussi. Alléluia! Gloire à Dieu! Dans la tribu de Siméon, on trouve une pierre précieuse qu'on appelle la lopaze. C'est une pierre qu'on trouve également en Éthiopie. Voilà pourquoi on appelle ça lopaze d'Éthiopie. C'est le symbole de la sagesse. C'est-à-dire que les Siméonites, quand ils grandissent en maturité, quand ils ont fait plein d'erreurs, ils sont cognés la tête à gauche, à droite, quand ils ont compris, quand ils reviennent, non seulement ils deviennent flexibles, mais ils deviennent sages. Bon, mais c'est dommage parce qu'ils ont perdu du temps. Moi, je pense que Salomon était un Siméonite quelque part. Même si c'est vrai que c'est un membre de la tribu de Juda, mais dans un certain sens, type de personnalité, il doit être un Siméonite parce que franchement, Salomon, il a dû vraiment... Ah oui, il a tourné. Hein? Avant qu'il s'asseye, qu'il écrive Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Ah, quelqu'un qui avait quand même 1000 concubines, c'est compliqué. Hein? Alléluia. La sagesse, et quand vous lisez les proverbes, quand vous lisez Cantique des Cantiques, quand vous lisez quel autre livre il a encore écrit Salomon, aidez-moi. Ecclésiaste, voilà, c'est dans Ecclésiaste d'ailleurs que sont contenues ces paroles de vanité. Quand vous lisez ces livres, c'est le livre de sagesse, c'est le livre d'expérience. Vous voyez quelqu'un qui a vécu, qui a roulé sa bosse. Tu vas être choqué, hein? Dis à ton frère, extension. Bon, ceux qui étaient hier, ils comprennent, donc ils ne sont pas choqués. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quand même un caractère assez important à souligner dans cette personnalité des Siméonites. Hein. C'est quand même des personnalités de nature parfois jalouse. Ils sont assez jaloux. Siméon est jaloux. Siméon est quelqu'un qui envie et qui est jaloux. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 37, versets 1 à 36. Et dans Genèse chapitre 42, verset 24. Donc parfois, c'est des personnes qui sont tellement leaders qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre prenne leur place ou du moins émerge et soit à leur niveau. Et les Siméonites, c'est des personnes qui veulent toujours régner. Je crois que Saül, quelque part, avait un type de personnalité de ce genre. Il était doté de talents, de dons, mais il voulait seulement que ce soit lui-même qui règne. Vous devez comprendre que dans la maison de Dieu, on est tous des stars. Parce que Dieu a dit à Abraham que tu auras une postérité d'étoiles. Donc tout le monde doit régner. On a vu encore hier la sphère. Donc mon frère, tu peux te retrouver dans la même assemblée que quelqu'un qui a la même sphère que toi. Mais elle n'a pas besoin de mourir d'abord avant que tu ne règnes. Et tu n'as pas besoin de la faire disparaître pour que tu règnes. Quand vous regardez le ciel, quand une étoile brille, une autre aussi brille à côté, non? Il n'y a pas de problème à cela. Quelqu'un brille, tu brilles aussi. Le ciel est grand. C'est vaste. Alléluia. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pareil, à l'église, il y a de la place pour tout le monde. L'autre sœur en Christ, elle chante bien, belle voix, toi, tu travailles, tu vocalises, tu chantes bien, pas pour concurrencer, mais pour régner. On l'a vu, ça y est, alléluia, pour régner. C'est ton nom que Dieu t'a donné, tu dois régner avec ça, tu dois briller. Et si l'autre brille, tu brilles. Si je brille, tu brilles, il brille. Nous brillons. Alléluia. Et vous brillez, eh bien ils brilleront tous. Acclamons le Seigneur, alléluia. Ils brilleront tous. Et la gloire revient à Dieu. Parce qu'en définitive, c'est Dieu qui règne, on a vu ça hier. Amen, amen. On peut tous régner ensemble, il n'y a pas de problème à cela. Au contraire, quand les gens arrivent dans un endroit où il y a beaucoup de stars, waouh, ils se disent, quelle potentialité dans cet endroit. C'est impressionnant, tout le monde a une particularité. On a vu dire que chacun de nous détient un don particulier. Donc, le peuple est béni de façon diverse et variée parce qu'il y a une diversité de dons et une diversité d'opérations. C'est écrit. Diversité de dons, diversité d'opérations et diversité de manifestations. Waouh! Il y en a qui vont avoir des dons qui se manifestent sous forme de feu, d'autres sous forme de tonnerre, d'autres sous forme de doux murmure, d'autres sous forme de vent. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Et après les Siméonites, nous avons une autre tribu, c'est la tribu des Lévites. Lévi aussi, c'est un enfant, c'est un fils de Léa, c'est le troisième fils de Léa. Lévi signifie consacré, être attaché. Donc les Lévites sont des types de personnalités consacrées à Dieu et attachées à leur appel. Enlever un Lévite le sacerdoce, il ne sera pas heureux. Le symbole de cette tribu, c'est le pectoral. Le pectoral, c'est l'habit que portaient les sacrificateurs. C'est une tribu qui est consacrée à Dieu et consacrée à la maison de Dieu. Et sur le pectoral étaient inscrits et brodés des pierres qui représentaient les tribus d'Israël. Il y avait 12 pierres qui étaient sur le pectoral, au niveau de la poitrine, donc au niveau du cœur. Et ces 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Pour dire qu'en fait, les Lévites sont des personnes qui portent le peuple de Dieu dans leur cœur. C'est la race des sacrificateurs. C'est la race des serviteurs de Dieu. C'est la race des hommes consacrés à la maison de Dieu. Pourquoi ils doivent porter les 12 pierres, les 12 tribus d'Israël sur eux? Parce que chaque fois qu'ils se présentent dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans leur sacerdoce, ils doivent intercéder en faveur des 12 tribus d'Israël, en faveur du peuple de Dieu. Et les Lévites n'avaient pas une part de territoire à Canaan. Lorsque Josué va distribuer les terres, les portions de terre, les territoires aux 12 tribus d'Israël, Lévi n'aura pas de territoire. Pourquoi? Parce que Dieu demande que Lévi soit consacré à la maison du Seigneur. Donc les Lévites naissaient dans le temple, ils grandissaient dans le temple. Alléluia! C'était leur part d'héritage. Et comme ils n'avaient pas d'autre travail que ça, alors les dîmes et les offrandes leur étaient consacrées. C'était leur salaire. Ils étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Alléluia! Bien-aimés, si tu n'aimes pas le peuple de Dieu, ou si tu n'es pas quelqu'un d'assez relationnel qui aime les gens, qui aime aider les autres à avancer dans la foi, si tu n'aimes pas visiter les autres, si tu n'aimes pas t'entretenir avec les autres pour essayer de voir s'ils ont des difficultés et les aider et prier avec eux, tu n'es certainement pas un Lévite, mon frère. Si tu ne viens à l'église que pour toi-même, que pour ton bien à toi, tu ne pries que pour tes sujets, que pour ta famille, que pour tes projets, tu ne penses pas aux autres, tu n'es certainement pas un Lévite. Et tu ne peux pas prétendre à un ministère de la parole dans l'église ou encore un ministère des serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont des hommes consacrés, c'est des Lévites. Si tu comptes ton temps, tu n'es certainement pas un Lévite. La pierre précieuse des Lévites est une arme contre ses adversaires. Alors, j'aimerais quand même vous préciser une chose très importante avant d'arriver à la pierre précieuse des Lévites. Les Lévites sont des hommes de prière. C'est des gens qui ont un cœur consacré à l'adoration. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, vous n'aimez pas la présence de Dieu, vous n'aimez pas adorer le Seigneur, c'est pas certain que vous soyez de la classe des Lévites. Ou encore, certainement, il y a en vous quelque chose, ou vous êtes certainement un Lévite, mais vous ne vous connaissez pas encore. Et dès ce soir, certainement, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à faire éclore cette personnalité de vous, ou ce trait de caractère que Dieu vous a donné pour que vous puissiez incarner le véritable profil de Lévite. Les Lévites ne font pas l'œuvre de Dieu avec négligence, parce qu'ils savent que c'est un sacerdoce. Donc, si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, si tu ne pries pas, tu n'aimes pas adorer le Seigneur, même que tu aimes chanter, parce qu'il y en a qui aiment chanter par passion, etc., pour se faire du bien, mais pas pour réellement en faire un ministère. Si pour toi c'est dur d'investir de l'argent pour te former dans le domaine du chant, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la louange, ou encore même dans le domaine du ministère de la parole, dans le ministère de la prière, etc., en fait, tu es appelé à être un simple laïc dans l'église. Tu n'es pas un lévite. Tu es un frère en Christ, un frère bien, gentil, une sœur superbe, agréable, merveilleuse, qui a une belle voix, qui chante bien, qui ferait bien une belle lévite, mais bon, qui ne l'est pas. Un frère qui joue à la guitare, bon, pour se faire du bien. Mais bon, ce n'est pas certainement pour conduire une réunion. Non, il n'a pas le temps pour ça. Oh, j'aime bien chanter. Pourquoi? Ben, parce que j'aime bien. J'aime bien jouer aux instruments. J'aime bien la louange. J'aime bien l'adoration, mais tu n'aimes pas adorer. Tu n'aimes pas louer. Tu n'es certainement pas un lévite. Tu viens à l'église, tu ne fais rien à l'église. Tu viens que pour écouter la parole et tu repars. Tu n'es engagé dans aucun service, dans aucun département. Même quand tu es un peu engagé, tu dis, bon, une fois par mois, une fois toutes les deux semaines, ça me suffit. Pas plus. Tu n'es pas un lévite. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Lévites ont une faiblesse quand même importante à souligner, c'est que ces hommes et des femmes qui sont colériques. Les Lévites sont colériques. Donc, souvenez-vous un peu de l'histoire de Moïse en Égypte. Il voit un Égyptien frapper un Lévite, son frère. Moïse, pris de colère, il va venger le Lévite. Et il s'enfuit dans le désert. Quelque temps plus tard, quand Dieu l'appelle et l'utilise pour délivrer le peuple d'Israël et l'amène au désert, quand ils arrivent à Meriba, là encore une fois de plus, pris de colère, il va frapper le rocher. Et ça a valu à Moïse qu'il ne rentre pas dans la terre promise à cause de ce trait de caractère colérique. Les Lévites sont des vengeurs. Et quand Lévi et Siméon sont ensemble, c'est dangereux. Lévi et Siméon ont appris que leur sœur a été violée. Quoi? Qui a violé notre sœur? Non, ce sont les Sichem. D'accord. Papa Jacob dit non, calmez-vous, on va arranger ça. Il dit, il n'y a pas de problème, on va voir. À l'insu de tout le monde, ils vont investir le camp des Sichem. Ils vont massacrer tous les Sichem. Vengeance. Ça, c'est bien les Lévites. Et c'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu doivent travailler ce côté-là. Parce que la tribu des Lévites, c'est la race, la classe des serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu sont colériques, nerveux, manquent de patience, comme Moïse. C'est un trait de caractère à travailler. Parce que Meriba n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais parler aussi de la destinée prophétique de cette tribu. Ok. Donc, les Lévites sont destinés à enseigner la parole. C'est une race qui garde l'alliance de Dieu. Ils vivent dans le temple. Ok. C'est de là que sont nés des ministères tels que des évangélistes, des pasteurs, en fait, disons des dons, enfin, des ministères, bon. Des personnes comme l'évangéliste, prophète, pasteur, toutes ces personnes-là, en fait, c'est la classe des Lévites. Des personnes qui doivent être consacrées dans le temple pour faire l'œuvre de Dieu. Et être payées par l'Église. Bon, moi, ce n'est pas encore le cas. En fait, moi, je suis un Lévite qui n'est pas rémunéré. Je risque de faire grève, hein. Non, je rigole. C'est volontairement, ok? C'est volontairement. Okay? L'Église des jeunes, mon épouse et moi, on a pensé que c'est bien que nous puissions épargner pour l'instant l'Église de cette charge, ok? Et vu qu'on arrive à se débrouiller quand même, je travaille, donc on peut épargner l'Église de ça. Mais sinon, ce n'est pas une raison, parce que quand quelqu'un est consacré au ministère, il doit vivre de son ministère. Donc c'est un sacrifice qu'on fait, c'est une offrande qu'on donne à Dieu, et nous savons que Dieu va nous bénir un jour. Alléluia! Gloire à Dieu! Bon, ce n'est pas pour autant qu'on n'allait pas me faire des offrandes. Hein? Amen, amen. Alors, je voulais parler d'un point important Oui, c'est ça, j'ai déjà dit. Les Lévites. Bon. OK. La tribu de Judas. OK, on va foncer. Hein. Il n'y aura pas de pause aujourd'hui. Je verrai si je ressens le besoin de faire une pause, je ferai. OK. Alors, le mot Judas vient du mot hébreu yada, qui signifie louer, remercier, adorer, consacrer. Cela signifie également puissance. Donc, la puissance est attachée à la tribu de Judas. En réalité, le ministère de la louange, c'est un ministère qui était destiné au départ à la tribu de Judas. Et vous souviendrez que lorsque le peuple d'Israël, alors que Moïse était sur la montagne pour rencontrer le Seigneur au sujet des 10 commandements qu'il devait recevoir de la part de Dieu, derrière, le peuple a fait un veau d'or. Quand ils ont fait le veau d'or, Moïse est descendu encore une fois de plus à bon lévite, animé d'une grande colère, il a cassé la table des 10 commandements. Et là, qu'est-ce qu'il fait au pied de la montagne? Il trace un trait et il se met d'un côté. Il dit maintenant à moi ceux qui sont à l'Éternel. Et ce jour-là, il n'y a que la tribu de Lévi qui est venue vers Moïse. Et c'est là au pied de la montagne que Judas a perdu son manteau du sacerdoce dans la maison de Dieu au niveau du ministère de la louange et l'adoration. Mais la tribu qui est née avec dans son identité, la louange, l'adoration, c'est la tribu de Judas. Mais nous savons aussi que dans les derniers temps, Dieu restaure la tente de David. Alléluia. Donc Dieu remet effectivement à Judas le manteau de la louange, l'adoration, de la présence de Dieu. Et on voit effectivement un membre de la tribu de Judas comme David, effectivement, qui ramène l'arche d'alliance dans la maison de Dieu, qui ramène la présence de Dieu au milieu du peuple et qui rétablit les chantres dans leur service. Et on part effectivement de David jusqu'à Jésus-Christ et nous voyons qu'effectivement la tribu de Judas, c'est la lignée de Christ. Le symbole de la tribu de Judas, c'est le lion. La force, la majesté, la noblesse, l'ardeur. Et la Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Donc, ceux qui sont de la tribu de Judas, aujourd'hui, ce sont tous les enfants de Dieu nés de nouveau, en réalité. En dehors du fait qu'on peut se distinguer dans les différents types de personnalités qu'on va citer encore, qu'on a commencé à citer, la tribu de Judas, c'est la tribu de tous les chrétiens. Quand vous lisez Matthieu, au chapitre 1, on vous raconte l'arbre généalogique de Jésus-Christ et on arrive à la personne de Jésus-Christ. On dit que tel est né de tel, tel est né de tel. Et quand on arrive à Jésus-Christ, vous devez comprendre qu'à partir de Jésus, nous sommes nés. Donc, notre arbre généalogique commence à partir de Christ. Et la tribu de Jésus, c'est la tribu de Judas. Donc, nous, spirituellement parlant, nous sommes membres de la tribu de Judas. Nous portons dans notre identité la louange, l'adoration, l'action de grâce, la reconnaissance, la consécration, la puissance, le règne, la domination et la force du lion est notre partage. Alléluia. Et donc, les gens de la tribu de Judas sont des personnes de caractère plein d'autorité, d'audace. La royauté est attachée à leur destinée et ils en sont conscients et donc ils savent qu'ils sont amenés, ils sont appelés à régner sur la terre et ils sont donc téméraires. Ils prennent possession de leur héritage, ils prennent possession de leur sphère et ils règnent, ils dominent. Ils ont une vocation généralement axée vers tous les métiers de domination, tous les métiers d'élévation, tous les métiers de leadership. On trouve les gens de Judas. Judas, en réalité, c'est la seule tribu de laquelle est issu tous les juifs. En fait, on appelle toutes les autres tribus par défaut les juifs, mais les véritables juifs, ce sont les gens de la tribu de Judas. Et quand vous analysez bien l'histoire des juifs, c'est des personnes intelligentes, c'est des personnes savantes, c'est des personnes qui ont l'esprit créatif, c'est des personnes qui sont partout dans toutes les sphères de la société. Ils s'investissent partout. Vous les voyez dans le business, vous les voyez dans la finance, vous les voyez dans la science, dans la technologie. Ce sont des grands génies. Ça, c'est ton héritage. C'est ta destinée prophétique. Alléluia! Tu es appelé à régner dans toutes les sphères. Voilà pourquoi hier j'expliquais, lorsque la Bible déclare que Bezalel, il parle de Bezalel, il dit, Dieu l'a rempli d'un esprit de sagesse et d'intelligence afin qu'il soit capable de faire toutes sortes d'ouvrages. C'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit des gens de la tribu de Judas. C'est l'esprit qui habite en toi et en moi. Les Juifs peuvent réussir dans tous les domaines. Dans la politique, partout. Dans la science, partout. Dans l'économie. C'est en réalité le symbole de ta destinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu t'élèves dans n'importe quel domaine de ta vie, de la société, l'esprit de Bethsalée, l'esprit de Jésus, l'esprit de la tribu de Judas étant sur ta vie, Dieu te rendra capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Et tu pourras réussir. Parce que l'esprit de Dieu est un esprit d'intelligence. Et on l'a vu ici, cette intelligence qui est une intelligence supérieure, qu'on appelle encore l'épignosis. Alléluia. Alléluia. Alors, Judas, c'est quelqu'un qui aime les affaires. Voyez-vous, lorsque les frères de Joseph voulaient vendre Joseph, voulaient tuer Joseph, qu'est-ce que Judas va dire? Il dit, mais quel intérêt on a à le tuer? Judas lui parle en termes d'intérêt. Lui, dans toute situation, il cherche quel est l'intérêt. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Voici la mentalité d'un businessman. Il dit, bon, quel est l'intérêt qu'on a à tuer notre frère? Mais vendons-le! C'est logique pour lui, vendons-le! On va faire une bonne affaire. Et la Bible déclare qu'ils ont vendu Joseph pour quelques pièces d'argent. C'est la mentalité des Juifs, c'est la mentalité des gens de la tribu de Judas. Quand tu as cette personnalité, sache qu'en fait Dieu t'appelle à faire les affaires, mais pas à vendre tes frères. Hein? Non. C'est juste un trait de caractère qui dénote effectivement une personnalité axée vers les affaires. Cinquième tribu, la tribu de Dan. Dan signifie juger, administrer, gouverner, s'efforcer d'atteindre un but, se donner tous les moyens pour atteindre ce but, lutter, exécuter, plaider, discerner. Donc ce sont des personnes qui ont des traits de caractère axés vers l'administration, le gouvernement. C'est des personnes, lorsqu'ils sont focalisés sur un objectif, ils ne lâchent pas prise tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils sont persévérants, ils sont téméraires, ils sont endurants. Alléluia. Le symbole de la tribu de Dan est représenté par le serpent et la balance. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent, en fait, c'est la vision prophétique que Jacob a eue sur son fils, sur la tribu de Dan. Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin. Dans Genèse chapitre 49, verset 17. Okay. Mais la balance, c'est le symbole de la justice, le droit. Donc en réalité, les gens de la tribu de Dan, donc les Danites, sont des personnes qui recherchent le droit, la justice. C'est des personnes en réalité qui sont très vigilantes, prudentes comme un serpent. Lorsque tu es Danite, tu fais très attention à toutes les décisions que tu prends. Tu réfléchis 7 fois avant de prendre une décision, avant de signer un document. Chaque fois qu'il y a une situation d'injustice dans la société, ça t'irrite ou ça t'attriste. Et tu veux faire quelque chose. Et ce type de personnalité a donné naissance à des leaders de groupes de révolution, des leaders de groupes syndicaux, des leaders de mouvements de réforme, tels que Martin Luther King. Alléluia. Mais aussi, ce type de personnalité a donné naissance à des corps de métier, tels que des avocats, des hommes et des femmes de droit pour établir la justice, tels que des grands médiateurs internationaux pour aller régler les conflits internationaux en tel pays et tel autre, parce qu'ils veulent rétablir le droit, la justice, l'équité. Les Danites aussi sont des types de personnalités qui ont donné naissance à des vocations politiques. Et la Bible déclare que la justice élève une nation. Toutes les personnes, effectivement, qui veulent gouverner, qui veulent être à la tête d'un pays, la première chose qu'ils recherchent d'abord et qu'ils clament haut et fort dans leur programme de société, c'est quoi? La justice. Dans la plupart des devises des pays, vous retrouvez justice, paix, dialogue, tolérance, fraternité, égalité. Mais c'est pas mauvais, ce type de personnalité, mais seulement il est important que ça soit utilisé pour la cause de Christ, pour la gloire de Dieu, et pas pour faire couler le sang. Si tu veux être un homme politique ou si tu ressens dans ton cœur l'appel, la vocation d'être un homme politique, je t'encouragerai. Hier, je vous disais que dans mon ministère prophétique, j'ai la grâce aujourd'hui de conseiller plusieurs hommes politiques de plusieurs pays différents. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais chaque fois que j'ai la grâce d'être à côté d'eux, je leur ramène à la parole de Dieu. Je leur dis, la justice élève une nation. Et la justice, ce n'est pas s'enrichir sur le dos des pauvres. Parce que l'argent mal acquis ne profite à personne. Au contraire, vous sacrifiez votre progéniture, vos descendants, et malheureusement, c'est eux qui paieront le tribut. Alléluia. Dans la maison de Dieu, le type de personnalité de Danit a donné naissance à des vocations telles que les intercesseurs. Les intercesseurs, des gens qui ont le cœur pour plaider, qui viennent signer des pétitions devant la face de Dieu en faveur du peuple. Ce sont des Danites. Des personnes qui aiment toujours réconcilier les autres, qui n'aiment pas qu'il y ait des problèmes, qui n'aiment pas qu'il y ait des conflits. Même dans votre famille, vous avez tendance toujours à vouloir que la famille s'entende bien, qu'il y ait la paix entre les frères et les sœurs. Quand vous entendez qu'il y a des problèmes dans la famille, votre cœur est triste, vous priez pour cela. Sachez que quelque part, vous avez un trait de personnalité de Danite. Les Danites sont des hommes sages. Ils ont des paroles qui apaisent la colère. Quand tout le monde est enflammé, quand ils arrivent, ils parlent, ils apaisent la colère. C'est des Danites. Sixième tribu, la tribu de Nephtali. Nephtali en hébreu signifie lutter. Lutter jusqu'à obtenir la victoire. Donc c'est le type de personnalité toujours insatisfait. C'est des personnes toujours insatisfaites. Ils ont un résultat aujourd'hui, gloire à Dieu, mais ils en veulent plus et ils veulent toujours faire mieux. Parce qu'en eux, il y a le désir de toujours faire mieux les choses. Ils ont un type de personnalité avec un caractère d'homme fort, une mentalité d'homme fort. C'est des personnes qui ont un front dur. Dieu a durci leur front en face de leurs adversaires. C'est des personnes qui ne relâchent pas, qui ne se découragent pas facilement devant les épreuves. C'est des personnes qui tiennent toujours tête à l'ennemi, qui luttent jusqu'au bout pour obtenir le résultat qu'ils recherchent. Le symbole de cette tribu, c'est la biche. C'est la biche. La biche, elle court et elle va toujours plus haut. C'est pourquoi dans Psaume, chapitre 18, verset 33, David dit, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Tu me fais marcher sur les lieux élevés. Alléluia. Donc, voici la vision et la destinée prophétique des Nephtalites. C'est des visionnaires. Des gens qui voient loin, comme on l'a vu hier, qui ont l'extension, qui n'ont pas peur de s'étendre, qui arrivent à franchir les limites de leur morale, les limites de leur éducation, les limites de leur culture, les limites de la société que la société a établie. Il y a des lois, parfois, qui ne sont pas favorables à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avec la conviction de cet esprit, Dieu peut nous amener à franchir certaines lois. Alléluia. Bon, je vous encourage pas à être hors la loi. Non. S'il vous plaît. Mais j'ai dit, la capacité à s'étendre. Comme je disais encore hier, vous savez, si tu veux être un pilote, tu dois franchir la limite de la peur. Récemment, quand j'étais au Gabon, j'ai pris un avion de la capitale vers la ville où se trouvaient mes parents. C'était un petit avion ATR. Et on me me dit, bon, les vols ne sont pas très réguliers dans cette zone parce qu'il n'y a pas beaucoup de passagers. Je dis, bon. Alors, on était à peu près 8 dans l'avion. Déjà, quand on est au pied de l'avion, je regarde l'avion, je dis, my God, Seigneur, là, c'est compliqué ici. Hein? On vous fait la démonstration. J'ai le sauvetage, tout ça, au pied de l'avion, par terre. Vous êtes aligné comme ça, tout le monde. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive avec un gilet, mais un vieux gilet, quoi. Ça ne fonctionne même plus, ça ne se gonfle, il n'y a rien dedans. Il fait, bon, voilà, vous mettez ça ici, comme ça, etc. et tout, vous tirez ici, rien ne se passe. Vous devez seulement comprendre que, en cas de problème, voici les gestes à accomplir. Donc, déjà, même le gilet lui-même ne te garantit pas. Ça ne te rassure pas. L'avion, tu regardes, tu dis, mon Dieu Seigneur. J'ai prié en langue. Mais comme c'est le seul avion qui nous amène là-bas, c'est la seule société aérienne, y a pas, on n'a pas le choix. Et donc, je suis monté quand même. Mais ça commence. Oh. On est en plein vol dans les nuages là-bas. Vous voyez la forêt, ben moi, on ne voit même plus rien. Tout d'un coup, on sent. Oh. Qu'est-ce qui se passe? L'avion descend. Oh. Je dis, mon Dieu Seigneur, c'est un crash. Non, je chasse cette pensée au nom de Jésus. Et l'avion descend, descend. Je me dis, non, c'est sûr que les pilotes vont nous dire quelque chose. Mais les pilotes ne disent rien. Aucune communication avec les passagers. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, on voit l'avion qui plane. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là, mon Dieu Seigneur? Et tout le monde se regarde parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Les pilotes ne disent rien. Et tout le monde a les yeux focalisés sur les pilotes parce qu'on voyait les pilotes de dos. Imaginez la situation. Et là, on se dit, bon, si eux-mêmes, ils commencent à paniquer, c'est que c'est un danger. C'est que là, c'est grave. On analyse leurs attitudes, on analyse leur expression de visage, et ils se regardent, ils rigolent. On dit, ah donc, tout va bien. Tout va bien. Et quelques temps plus tard, on voit l'avion qui remonte. Oh, Seigneur, merci. Et durant tout le vol, c'était comme ça. Le vol a duré 1h30. Mais 1h30 était comme si c'était 4 heures. Mon Dieu Seigneur. Et au retour, je devais prendre le même avion. Et quand j'ai raconté ça aux autochtones, ils ont rigolé. Toi, on sait que vraiment, non, tu n'es plus habitué avec le pays. Hein. Nous ici, on connaît ça tous les jours. Nous, on est habitué, on voyage en cercueil volant. Et il y a un qui m'a dit, tu as appris quelle société aérienne? J'ai dit non, c'est tel. Je ne cite pas parce qu'on ne sait jamais où ça peut arriver ce message. Il me dit, quoi? Mais ça, c'est un corbillard volant. J'ai dit, oh Seigneur, merci de m'avoir délivré de la mort. Acclamons le Seigneur, alléluia. Mais ce qui m'impressionnait, c'est l'attitude des pilotes. Malgré les mouvements de l'avion, les vents qui soufflaient, ils étaient sereins. Ils regardaient, ils se regardaient, ils rigolaient. Parce qu'ils avaient franchi des limites. La peur, non, ils ne connaissaient plus la peur. Il paraît que même ils s'amusent à faire des rallyes avec des corbillards volants. C'est grave. Alléluia. Donc, si tu es Nephtalite, tu dois apprendre à vaincre la peur, à vaincre la tristesse, à vaincre la culpabilité qui vient du diable, à vaincre certaines limites qui t'empêchent de rentrer dans ta vision, parce que les Nephtalites, c'est des hommes visionnaires. Alléluia! Alléluia! Et quand Moïse prophétise sur cette tribu, il dit sur eux qu'ils sont rassasiés, en fait, ils sont destinés à être rassasiés de faveur de Dieu, comblés de bénédictions. C'est normal. Ils vont là où personne ne va. Donc ils peuvent être rassasiés de grâce et de bénédiction parce que là où tu ne peux pas aller, ils y vont. Ils y vont. Et ils ramènent des choses. Tu te demandes, où est-ce que tu as eu ça? Dans une sphère dans laquelle tu ne peux pas y aller. Pour y aller, il faut prendre un corbillard. Et la Bible dit au sujet Nephtalites qu'en fait, ils sont destinés à prendre possession de l'Occident. My God. Ça dit qu'en fait, c'est des gens qui ont une vision de conquête des nations. Alléluia. Donc, si tu es quelqu'un qui aime conquérir les nations, tu as un esprit d'aventurier, tu as le goût de l'aventure, tu es certainement un Nephtalite. Tu n'as pas peur, tu aimes voyager. Hein, comme mon fils, je vois, quand on dit voyage, il commence à ranger sa affaire. Et moi-même, je vais faire ma valise. Donc, je vois dans lui, en fait, un ministère de missionnaire. Bon, comme il aime le foot, peut-être c'est un grand footballeur aussi qui arrive. J'ai dit, si tu veux être footballeur, moi, je mets les moyens. Mais sois le meilleur de footballeur. Parce qu'après, je demande la dîme. Hein. Alléluia! Non, mais honnêtement, si mon fils veut faire foot, je vais l'encourager. Parce que, bien aimé, le foot aujourd'hui... Ah! Bien aimé, si dans l'église, on a seulement un seul footballeur. Moi, je prie qu'il y ait des footballeurs. Si tu as une vocation de football, tu veux me voir, je t'impose la main, je vais jeûner pour toi. Attends, bien aimé. Un frère en Christ comme Kaka. Vous savez, le joueur brésilien, c'est un frère en Christ. On me dit qu'il est chrétien. Je dis, mon Dieu, son pasteur, mais mon Dieu, il est béni. Il doit jeûner tous les mois pour lui. Il paraît, il a gâté l'église, il a modernisé, mais il fait des actions extraordinaires. Et il prêche l'évangile partout dans l'équipe du Brésil, partout où il joue. Tout le monde sait qu'il est chrétien. Sur le terrain du foot, il programme sa foi. Un bon joueur, une référence, une star qui a découvert sa sphère d'influence et il règne. Il n'avait pas besoin d'attendre que Zidane s'en aille pour régner. Il régnait déjà. Alléluia! Zidane régnait lui aussi, il règne à côté. Et il joue au milieu de plusieurs stars. Ronaldinho, à côté de lui. Ronaldo est là. Il n'y a pas de problème. Toi et moi, on est ensemble. Tu règnes, je règne. Alléluia. Donc, imaginez qu'il y ait des gens comme ça à l'église. Oh my God. Donc, mon fils, là, il veut jouer. Il n'y a pas de problème. Je mets le moyen. Mon Dieu, je suivais l'interview d'Anelka la dernière fois. Anelka, il dit, moi, franchement, la France... Moi, quand j'ai commencé à jouer au foot au début, je roulais en Ferrari. Et pour lui, c'est rien la Ferrari, quoi. Il parle de ça comme si c'était rien. Il dit, mon Dieu, Seigneur. Le match qu'ils ont gagné là, avec la main. Vous savez combien de primes chacun a eu en fonction de la sélection? Ça part de 100 à 200 à 600 000 euros. De 100 à, ça c'est la prime seulement, de 100 à 600 000 euros. Mon frère, j'ai travaillé, j'ai fait un stage de fin de cycle là à BMW. J'ai vu les footballeurs là qui jouent au club de Girondins de Bordeaux là. Ils venaient changer les voitures, mais comme ils changent les chemises quoi. Ils arrivent, et quand ils arrivent, les commerciaux tremblent devant eux. Il arrive comme ça, il dit, bon moi je suis Girondins de Bordeaux, je joue, voilà. Bon, il faut fournir en fait les bulletins. Bon, les bulletins salaires. Est-ce qu'ils ont mis les bulletins salaires? C'est pas les bulletins payés. Et ils ont carrément comme des notes d'honoraires. Tu regardes comme ça, mon Dieu. Quand tu fais stage, j'avais accès à tout comme ça. Mon Dieu, prime, 300 000 euros. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il prenne la dernière marque de BMW? Quand il est fatigué, il dit, bon, je prends un peu Ferrari. Non, Ferrari, c'est plus. Non. Allez, je prends Mercedes. Ça, je... Frère. Ah! Korababacha, évangéliste, on va commencer à faire des évangélisations ciblées. Évangélisation ciblée. On fait embuscade au Girondins de Bordeaux là-bas. En plein match là. Au stade Shabbat Delmas, on arrive là. On dit non, on est conseiller pédagogique de. Quand les joueurs sont stressés là, on vient, on prie pour eux. Alléluia. On prie pour eux. Et puis après, on va en Afrique aussi, parce que là-bas, ils aiment trop le truc de fétiche, là. Il paraît que même pour jouer un match, il faut aller voir un marabout. On va dire, non, laissez tomber ça. Nous, on est là, on prie pour vous. On jeûne, on vous fait le bain d'huile avant de partir sur le terrain. Vous amenez toutes vos bottines, on verse l'huile dedans. Acclamons le Seigneur, alléluia. On verse l'huile dedans. Quand tu mets comme ça, tu tires comme ça, fiou, le ballon passe. Personne ne voit, direct dans les filets, but. Acclamons le Seigneur. Seigneur, alléluia. Oui, on va commencer à faire de l'évangélisation ciblée, du prophétique ciblé. Mais oui, ça c'est les mana, ça sont les neftalites. Ils ont une vision grande. Non, ils ont compris. Non, on prêche pour vous là, c'est bien. Mais moi, je suis en train de rêver à des grandes conférences de 1 000, 2 000 personnes. Parce qu'à la fin, frère, le cachet qui tombe là, ce n'est pas les 100 euros qu'on va me donner. Non. Les autres, ils traitent en dollars. À une conférence, on a eu 5 000 $. Ça, c'était une offrande de l'infidèle. Mais à la fin, l'église m'a donné 50 000 $. Mais merci, Seigneur. Tranquille. Donc, nous, les petits ministères qui naissons, quand on écoute des jeunes la foi parler comme ça, on dit, mais attends, on vit dans le même monde ou quoi? On a la même Bible là? Acclamons le Seigneur, alléluia. Mais c'est la mentalité, bien-aimés. Ils ont la mentalité des neftalites. Alléluia. Bon, c'est vrai que ça n'arrange pas les religieux. Quand on parle de ça à l'église, les religieux disent, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ce pasteur-là parle comme ça? Est-ce qu'il peut... Franchement, lui aussi. Non, c'est neftalite. Dis à ton frère, neftalite. Oui, et aussi. Et c'est important que nous puissions casser ces mentalités dans l'église et instaurer de nouvelles mentalités. Parce que, bien aimé, il y avait 12 tribus en Israël. Il y avait même 13, mais il y a 2 tribus qui ont été jumelées en une. Alléluia. La tribu de Joseph, qui était en fait la tribu de qui et qui? Éphraïm et Manassé. Ça fait une tribu, Joseph. Donc, normalement, il y a 13 types de personnalités dans la Bible. On ne peut pas se focaliser que sur une seule personnalité et dire que non, voilà, nous, on est ici, vraiment, on ne fait pas trop de bruit, non, pas trop de prétention. Non, Dieu est un Dieu sage, humble cité. Vous ajoutez dans le dictionnaire. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Acclamons très, très, très fort le Seigneur. Alléluia! Acclamons sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut changer. Dis à ton frère, on doit changer. On doit changer de mentalité. On doit changer de personnalité. C'est possible de changer de personnalité. Ici, mon but n'est pas de vous faire un prototype de personnalité, de dire que vous allez être juste Benjamite ou encore Zabulonite ou encore Bénite, etc. Non. C'est-à-dire que dans chaque type de personnalité, vous prenez ce qui vous correspond. C'est ça la Bible. Quand tu lis la Bible, tu prends ce que... Non, ça c'est pour moi, je prends. Et tu te bâtis une personnalité. Alléluia. La tribu de Gad. Gad signifie se mettre à plusieurs pour conquérir. Donc c'est des gens qui ne sont pas très solitaires. Ils aiment être ensemble. Dites, on est ensemble. C'est des rassembleurs. C'est des personnes... qui aime aller en guerre ensemble. C'est un type de personnalité qui a l'esprit d'équipe, qui a su cultiver l'esprit d'équipe. Ils n'ont pas de problème relationnel et ils n'aiment pas en avoir. Et quand ils en ont, ils savent comment les régler. Et ce type de personnalité a donné naissance à des vocations telles que les leaders de groupe, les leaders d'association, des personnes qui, dans le monde, au niveau social, aime diriger des équipes, aime motiver, aime stimuler, donner un objectif pour arriver à un but bien précis. Et dans la maison de Dieu, ce type de personnalité a donné naissance à des responsables de groupes, de départements, on appelle des leaders, ou encore des vocations de pasteurs. Parce que pour être pasteur, il faut apprendre à rassembler, à réconcilier. Ils aiment la présence de Dieu. L'un des traits de caractère négatif de Gad, c'est que Gad aussi signifie papillonner, vagabonder. Donc, c'est un point négatif chez eux. Ils aiment être en groupe, mais ils aiment aussi papillonner. Ils aiment vagabonder. Et ça a donné un type de chrétien, chrétien papillon, chrétien vagabond. Il n'est jamais sur place. Toujours en train d'aller à gauche, à droite, à la recherche du corps de Christ. Ce corps-là, ils n'ont jamais trouvé. Corps de Christ, corps de Christ. Un jour, j'ai dit ça avec une sœur. Et puis, non, moi, je suis un chrétien du corps de Christ. J'ai dit, ah, c'est bien. J'ai dit, mais le corps, vous savez, le corps a plusieurs membres. Hein? Toi, tu es quel membre? Tu es le bras, tu es la main, le pied, tu es quoi? Non, je suis dans le corps de Christ. Mais tu es localisé où? Parce que dans un corps, il y a des localisations. On dit que le bras est localisé ici. Le pied est localisé là. Mais toi, tu es localisé où? Bon, ne me dis pas la tête parce que c'est Christ lui-même qui a la tête. Alléluia. Dis-moi, où est-ce que tu es? Tu es le doigt? Tu es l'orteil? Tu es quoi? Je dis, est-ce que tu as déjà vu une main qui se balade dans la ville toute seule comme ça, qui n'est pas localisée dans un corps? La main se balade, elle va à l'arrêt du bus, elle prend son ticket, elle attend le bus, elle monte dans le bus. Je suis sûr que tout ce qui est dans le bus vont descendre, ils vont fuir. Personne ne va prendre le bus, même le conducteur va descendre, il va dire non. Ça, c'est la sorcellerie. Une main qui va aller crame partout, non. Ils vont dire, fait divers. Ça va passer partout à la télévision, on va dire non. Il y a un fait, vraiment un phénomène à Bordeaux. Une main qui se balade toute seule. Même le caméraman aura du mal à filmer la main. Il va se tenir à distance. Il va faire zoom. Là, il zoom, il voit la main comme ça, il filme vite, allez, il fuit. Parce que c'est de la sorcellerie, ça. Alléluia. C'est comme ça. J'ai dit à cette sœur-là, c'est comme ça que les anges te voient. Mais que les anges dans le ciel, quand ils te regardent, ils voient une main qui se balade, qui n'est pas localisée dans un corps, dans le corps de Christ. Ils voient la main qui se balade à gauche. Et les anges sont choqués, ils courent partout. Et donc la presse, tous les médias du ciel se réunissent. Il se passe le faux. Et les caméramans, les anges caméramans arrivent. Les anges intervieweurs arrivent. Ils intervivent. Alors, Dieu le Saint-Esprit. D'abord, Dieu le Père, il y a un phénomène sur la terre. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Dieu le Père dit, ben oui, le Saint-Esprit m'a téléphoné. À peine, je viens de recevoir l'information, j'ai reçu l'appel du Saint-Esprit qui m'a dit que, en fait, il y a un phénomène sur la terre. Effectivement, il y a une main qui se balade toute seule. Et puis, moi, dans cette affaire, je pense que, bon, il y a un chef de gouvernement ici, vous voyez mon fils. Alors, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vos impressions par rapport à ce phénomène? Et Jésus-Christ dit, mais c'est tout simplement de la sorcellerie. C'est comme ça. Les anges vous regardent. Ils sont choqués. Je dis à cette soeur-là, tu fais l'objet de l'actualité au ciel en ce moment. Tu es tristement célèbre. On te voit partout dans les chaînes de télévision. Les anges sont choqués. Ça, c'est les gadites. Vagabonds. Ils recherchent la distraction. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles à une vision. C'est des gens qui sont toujours... Que Dieu les aide.